Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Notre prochaine période, on va parler avec des gens de Contrôle routier Québec. Sophie, tu as été nous chercher encore le président de la Fraternité des constables de Contrôle routier Québec. Jean-Claude Daigneault, bienvenue à Truck Stop Québec.
Merci.
Comment ça va présentement? Est-ce que vous êtes encore en négo pour armer les contrôleurs routiers ou vous êtes avez-vous une décision actuellement? Vous voudrez des scoops aujourd'hui à Truck Stop Québec?
J'aimerais bien ça vous en donner un. Ça va être un petit peu plus difficile que ça. Le dossier de l'armement des contrôleurs routiers remonte dans les années 70.
Okay.
Pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a amené ça au tribunal ça fait presque 4-5 ans.
Okay.
Et là, durant le printemps, peut-être ça serait ça un peu la nouvelle, c'est que durant le printemps, on venait de finir nos 17 jours d'audience.
Okay.
Très, très long là, pour un dossier comme ça. Et on s'en allait faire les 3 journées de plaidoirie finale. Et à ce moment-là, on a eu un appel de la ministre des Transports, d'un adjoint à M. Bonnardel, puis aussi la Société d'assurance automobile, qui nous ont dit on a une entente, on va armer les contrôleurs routiers, on n'aura pas besoin de faire les plaidoiries finales.
Okay.
Et j'étais très heureux de la situation pour dire que ça va se régler, mais c'est quelque chose qui n'aurait pas pu se régler en dedans d'un mois. Là. Ça aurait pris au moins 3 ans, le temps de former les contrôleurs, parce que c'est quelque chose qui serait fait à l'École nationale de police. Puis, c'est par groupe. Tu sais, fait que, on avait gardé les audiences, en fait, les plaidoiries. On avait dit on va les reporter, mais cet enjeu-là était expliqué à la juge au mois d'avril. Et parce qu'elle prenait une raison pour reporter les plaidoiries, qu'elle a accepté. Et finalement, le dossier n'a pas cheminé correctement. Ça s'est rendu dans une autre instance gouvernementale, qui est le bureau du premier ministre. À ce moment-là, nous autres, c'est pas un endroit qu'on avait pensé aller cogner à la porte, dire bonjour, bonjour, on est des contrôleurs routiers, parce que c'est un problème constant chez nous. Les gens ne connaissent pas notre travail, savent pas trop qui qu'on est. Fait que...
Ouais.
Et j'ai toujours l'anecdote dans la tête, là, il y a plusieurs années, quand on est arrivé au bureau du ministère des Transports, on avait rencontré un adjoint, puis la personne pensait qu'on travaillait juste dans la période de déjeuner. Tu sais, c'est juste vous donner une idée là, qu'il y a du cheminement à faire. Là, tu sais, fait que finalement, au bureau du premier ministre, on a eu 2 rencontres, mais ça a fini qu'ils ont décidé de dire on veut attendre le jugement. Fait que les plaidoiries finales ont eu lieu la 2 semaines. Puis ça a duré 3 jours et ça s'est terminé.
On peut-tu penser avoir un dénouement dans une longue période de temps ou ça peut risquer peut-être d'être encore, tu sais, dans quelques semaines, on devrait avoir une réponse? C'est quoi le...
C'est un entre-deux, là. C'est dans le fond, à ce type de tribunal-là, les juges ont normalement un maximum de 3 mois pour rendre le jugement. Et si le dossier est complexe, ils peuvent demander une extension, mais on parle pas d'extensionner là, un autre 6 mois. Là, tu sais, c'est,
okay.
Fait que la juge, étant donné qu'il y a 8000 pages au dossier, elle nous a mentionné que ça se pouvait qu'il y ait qu'elle demande une extension. Fait que nous autres, dans le fond, c'est en septembre, là, début septembre. Fait que si vous calculez 3 mois, on arrive en décembre. Fait que, tu sais, grosso modo, là, on s'attend peut-être autour du temps des fêtes, un petit peu après, d'avoir le jugement.
Là, je sais qu'il y a eu le rapport là, Mario Berniquet qui a été déposé. Est-ce qu'on pourrait expliquer un peu aux auditeurs c'est quoi qu'on retrouve dans ce rapport-là? Parce que je pense que cet expert-là était en faveur de l'armement des contrôleurs routiers.
Oui. C'est que quand on va devant ce type de tribunal-là, qui est quand même une instance de la CNSST, là, donc c'est l'instance finale. Ça devient un débat, puis chaque partie doit convaincre la juge de la pertinence de son dossier. Quand on arrive avec un dossier comme on avait, Ben là, c'est pas un médecin que normalement tu vas faire venir un médecin dans ton dossier de santé sécurité, puis là, tu vas venir prouver que tu as un mal de dos XY. Fait que là, tu as deux médecins qui vont le médecin d'employeur, mettons, puis le médecin de l'employé. Là, dans ce cas-ci, ben, c'est un syndicat contre le gouvernement. Là. Fait que chacun a fait faire une étude d'expert. Fait que nous autres, on avait mandaté M. Berniquet, qui lui est venu faire la patrouille avec les contrôleurs routiers, qui est venu voir qu'est-ce qui se passait. Puis c'était quelqu'un qui connaissait déjà un peu le travail des contrôleurs routiers, parce que le contrôle routier Québec, là, pour dont les plus vieux qui nous écoutent, a été à la Sûreté du Québec pendant 50 ans. On parle de l'année 1985 à 1990.
C'était comme une branche de la SQ. Là.
Exactement.
Okay.
Ça a été enlevé de là pour toutes sortes de raisons politiques. Mais fait que là, lui, il avait cette connaissance-là aussi. Là, fait que quand il a fait la tournée un peu de avec l'expérience qu'il avait, il a rédigé un rapport. Puis dans son rapport, il venait recommander que les contrôleurs routiers soient équipés de l'arme, une arme de service, qu'on ait un accès à... Dans notre jargon, on appelle ça CRPQ, qui est le Centre de renseignement des policiers du Québec. Fait que qu'on ait un accès intelligent, là, parce que présentement, ça n'a pas de bon sens. On laisse aller des gens qui sont recherchés. Là,
ben oui.
Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont recherchés. Tu sais, fait que ça c'était un des aspects. Puis il y avait un autre dossier. Il y avait trois items au départ. Mais puis la formation continue là, qu'on demandait aussi. Tu sais, fait que...
Ça serait quoi la différence? Parce que là, je sais que ça a été amené aussi de l'autre côté, la possibilité d'avoir un taser à la place d'une arme, ça serait quoi la différence entre les deux? Puis pourquoi ça serait mieux d'avoir une arme à feu qu'un taser, par exemple?
Le taser, c'est plus une arme défensive qui est comme associée au poivre de Cayenne. Fait que, puis normalement, quand tu utilises le taser, ben il faut que tu sois deux. Puis souvent, il y a un backup qui est armé en arrière des gens qui vont utiliser le taser, mais ça ne marche pas tout le temps. Le problème qu'on a, nous autres, contrairement, mettons, à la police, qui vont intervenir avec un taser, mais c'est qu'eux autres, ça se fait dans un environnement, là, une maison, quelqu'un qui est en détresse psychologique, puis tout ça. On dit quand même, les camionneurs, ça pourrait arriver, là, mais c'est assez rare qu'ils sont en détresse psychologique quand ils conduisent un camion. Puis quand on les intercepte, on est sur le bord de la route. Fait que là, on va commencer à envoyer des fléchettes à quelqu'un. Puis là, mettons que c'est l'hiver, il y a le gros manteau d'hiver. Puis là, le corridor, il est pas large. Fait que là, on tire les fléchettes, il se ramasse de l'autre côté, tu te fais écraser. Fait que, tu sais, c'est pas une arme qui est adaptée, mettons, là, au travail qu'on fait.
Et pour rappeler peut-être aux auditeurs, là, en fait, vous avez de plus en plus de rapports avec le crime organisé là, dans vos... Puis tu sais, tu dis justement que vous arrêtez des fois des personnes qui sont recherchées.
Je veux dire, avec un dossier large.
C'est quand même quelque chose de... Tu sais, je pense pas qu'on s'attend à ça. Nous, en tant que camionneurs, en tout cas, moi, quand j'étais sur la route, jamais je me serais imaginé c'est quoi la portée du travail que les contrôleurs routiers font. Puis je pense que ce serait peut-être
intéressant. Au-delà d'une inspection de log ou d'une inspection de mécanique.
Ben, nous, on peut imaginer qu'ils donnent des tickets, mais ils font pas juste donner des tickets. Là, je veux dire, vous faites pas juste non plus arrêter des camions. Le travail est tellement plus large que ça. On disait que le travail est mal compris. Je pense que c'est vrai. La portée de votre travail est bien plus grande que qu'est-ce qu'on peut imaginer.
Oui, ben, tout à fait. J'ajouterais à ça que c'est certain que l'ensemble du travail des contrôleurs routiers, même quand on finit ici, nous autres, on s'en va à l'école de police, on s'en va rencontrer des nouveaux contrôleurs routiers qui ont été engagés. Puis des fois, on leur explique c'est quoi là, qui s'en vient, puis ils sont comme un petit peu OK, tu sais, c'est très large le travail des contrôleurs. Puis en même temps, ben c'est méconnu. Puis l'autre problème qu'on a, c'est que les camionneurs pensent souvent que ils sont fait intercepter une fois ou deux, puis ça a bien été, puis. Mais c'est parce que nous autres, on en arrête autour de 100 000 par année là, des véhicules. Fait que c'est certain, dans le lot, à un moment donné, là, tu vas en empoigner là, des gens qui, mettons, qui sont pas civilisés ou qui ont des problématiques XY, les permis de conduire pas payés, ils transportent de la drogue. Des
camions pas plaqués.
C'est ça, tu sais. Fait que, mais pour la majorité des camionneurs qui nous écoutent, les autres, ils disent, ben, pourquoi ils veulent le terminer, là? Ils n'ont pas besoin de ça. Tu sais, parce que chacun personnalise ça à lui. Mais en bout de ligne, la
comparons,
nous autres, on le regarde, on a une vision beaucoup plus large que le camionneur qui, lui, dans son camion, il regarde ça. Ouais. Parce que, tu sais, sur 100 000 trucks qu'on arrête par année, là, il y en a peut-être le deux tiers là, qui sont corrects. Là. Il n'y a pas de trouble. Là.
Comparons aux policiers, combien de fois ils doivent utiliser leur arme dans leur fonction quotidienne? Peut-être une fois par jour, peut-être une fois par mois, puis peut-être une fois par année. Puis des fois, c'est plus dissuasif que d'être obligé de l'utiliser là, et de tirer. Fait que dans votre cas, je le répète, à 2h du matin, moi, je veux pas rencontrer les deux armoires à glace qui sont dans le camion et qui ont peut-être pour 1 million de poudre blanche dans le trailer. Je veux pas avoir affaire parce qu'eux autres, ils ont un désir de rentrer ça à bon port coûte que coûte, tandis que toi, t'es l'humain qui peut peut-être manger quelques balles pour un voyage d'un million de poudre, là, tu sais. Ben, fait que je voudrais même pas être dans votre peau, mais je salue le travail que vous faites. Puis c'est pas parce que vous m'arrêtez une fois, deux fois dans ma carrière, trois fois, vous me donnez une étiquette. Si j'ai le mérite, l'étiquette, c'est pareil comme si je décide de rouler 120 d'une zone de 90, je t'arrisque d'avoir une étiquette. Mais je suis en connaissance de cause. Là, c'est correct, les heures de service, c'est tel que tel, là, avec les logs électroniques, mais dans le temps où on faisait 2-3 logs, je cacherais pas qu'on l'a toutes faites, mais ça fait partie, c'était comme ça le travail. Et bon, aujourd'hui, c'est bien différent. On a moins de stress, on est moins fatigué, on est plus porté à faire une belle journée. Mais si je méritais un ticket de log, je le méritais. J'avais joué avec le feu puis je m'étais brûlé.
En as-tu déjà eu un?
Ticket de log, oui. Oui, oui.
J'en ai eu un, moi, un ticket pour overweight.
Overweight? Oui. Moi, j'ai déjà eu un ticket à la balance de Belleuil. Je sais pas si votre collègue est travaillé. En tout cas, peu importe, mais je m'en viens. Puis moi, tu sais, j'ai de la misère à envelopper un cadeau, OK? Je suis pas la meilleure personne pour envelopper un cadeau. Disons que mettre du tape autour de la boîte, ça irait plus vite. Et je m'en viens, puis j'ai toilé un voyage, OK? Et la toile, ben, c'est des contours en aluminium très coupants. Ça a tout déchiré. Écoute, ça tenait pas. Les coins qu'ils m'avaient fournis étaient partis avec le temps. Et je dépassais, je pense, d'un pouce. Fait que j'ai pas une étiquette de oversize en
français. Ouais. Ouais.
Fait que.
Mais tu sais, puis l'autre chose, il faut que les auditeurs comprennent, c'est que nous autres, dans nos interventions, tu sais, je disais tantôt, là, on donne à peu près 35 000 constats par année. Là. Mais dans ce 35 000-là, il y en a une grosse partie qui s'en va à la compagnie de transport. Le chauffeur, lui,
il l'a pas eu.
Vous parliez, une surcharge. Mais la surcharge, là, c'est presque tout le temps, ça va au propriétaire, l'exploitant du véhicule. Fait que le chauffeur, lui, il va recevoir le constat, mais il est pas à son nom, il est au nom de la compagnie Inc.
Ouais.
Fait que il en subit les conséquences parce que le véhicule, il faut qu'il reparte conforme. Mais tu sais, le chauffeur, il est pas...
C'est pas lui qui est...
Importuné, ouais. Là, tu sais. Fait que... Puis ça, c'est le courant pour nous autres, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, quand on vient, mettons, pour l'arme de service, ben là, on tombe encore dans un créneau beaucoup plus restreint, beaucoup plus précis, mais qui se produit quand même relativement souvent à notre échelle à nous autres.
T'sais. Je sais qu'il y a comme un genre de fossé entre les camionneurs et les contrôleurs routiers. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Est-ce qu'un jour, on pourrait souhaiter qu'il y ait un rapprochement, une meilleure éducation? Puis quand je suis pas une étiquette, ben torieux, j'ai pas une... Ce qui fait qu'il y aura une ouverture d'esprit des camionneurs envers les contrôleurs routiers. Puis là, je dis pas que c'est 100% des gens qui sont comme ça. Il y en a beaucoup qui vont vous défendre parce que c'est votre métier, c'est votre... Mais est-ce qu'on pourrait souhaiter un jour un genre d'espèce de rapprochement et qu'il y ait une genre d'éducation qui se fasse? Parce que camionneurs, des fois, pensent que vous êtes juste des gens qui sont là parce que, bon, ils ont des infractions à donner, puis tout ça, sans prendre en considération que t'es arrivé telle affaire, mais... Comme je disais tantôt, je roule 120 d'une zone de 90, j'ai joué avec le feu, je me suis brûlé. Est-ce qu'on pourrait souhaiter ça un jour?
Ben c'est sûr, mais comprenez, là, moi je suis président d'un syndicat, là, fait que ça va être dur pour moi d'aller installer un kiosque syndical. Mettons,
je comprends.
Mais je sais que Contrôle routier Québec se positionne puis il essaye d'installer des kiosques d'information à des endroits là, où il y a des associations ou des
un festival ou
des... Oui, on les voit à ExpoCam, justement.
ExpoCam sont là.
Un des commentaires que j'ai vu souvent, justement, concernant contrôleurs routiers sur la page de Truck Stop Québec, c'est des camionneurs qui disaient qu'ils comprendraient mieux l'arme de service si contrôle routier faisait partie de la police ou la SQ. Donc, est-ce que ça serait quelque chose qui serait envisageable? Parce que là, on sait que vous l'étiez autrefois. Ça l'a changé. Est-ce que ça pourrait revenir?
Écoutez, moi, là, c'est une question très large en même temps, là. Moi, comme président de syndicat, je veux que les choses marchent correctement pour mes membres. Fait que c'est certain que si demain matin, je me ramasse dans une autre entité, une branche dans la Sûreté du Québec ou MSP ou ministère des Transports, puis que ça fait que nos problèmes se règlent, je vais être le premier content, tu sais. Fait que, mais en même temps, c'est une décision politique. Et puis ça, je l'ai expliqué à plusieurs de mes membres récemment, là, suite au plaidoyer au tribunal, parce que c'est dit des choses de la part des avocats du gouvernement qui ont vraiment déçu mes membres, mais le contrôle routier, dans le temps que c'était à la Sûreté du Québec, puis que ça a été ramené à la SAC, c'est un changement d'environ une dizaine de lois. Donc, ça, c'est le Parlement qu'il faut qu'il s'assoie, qu'il y ait une commission parlementaire. C'est presque, tu sais, souvent on va appeler ça un projet de loi mammouth, là. C'est un gros projet de loi, là, faire ça. Fait que, parce que faut mener changer des appellations, dans plusieurs lois, le code de sécurité routière, la loi sur propriétaires exploitants de véhicules lourds. Fait que fait que tout ça, faut que ça change tout en même temps pour être capable de faire ça. Est-ce que ça va arriver, mettons, l'année prochaine suite au jugement? Peut-être, peut-être pas. Tu sais, il y a une incertitude, mais c'est certain que si jamais le gouvernement décide d'aller là, ben, je vous dirais comme une fenêtre d'à peu près un an avant nous, parce que le temps de faire le projet de loi, de le déposer, puis il va y avoir un paquet d'intervenants qui vont vouloir aller, tu sais, qui sont d'accord ou pas d'accord. Je pense aux associations de camionnage, là, CQ, l'ANCA et les autres qui vont dire, ben là, moi, ça fait pas mon affaire que ça s'en aille, mettons, à la Sûreté du Québec. Fait qu'ils vont tous pouvoir venir donner leurs commentaires. Alors, avant que ça déboule, puis le gouvernement va tomber en élection. Oui. Fait que, ouais. ça serait très étonnant, mais moi, je peux pas être contre que si on s'en va, puis que ça règle tous nos problèmes d'un coup, je serais le premier content. Là. J'ai toujours dit, je veux pas vivre un mort.
Mais quand on regarde un peu en Amérique du Nord, ailleurs, les contrôleurs routiers font partie des policiers.
Partout aux États-Unis, les contrôleurs de la place, c'est soit des policiers ou sont armés. Au Canada, le dernier décompte que j'en ai eu, c'est il y a 3 provinces qui sont armées. Le Nouveau-Brunswick, l'Alberta, je pense l'autre, c'est la Saskatchewan. Puis d'autres provinces, ce sont des policiers qui le font. En Ontario, les contrôleurs de la place, on va dire ça comme ça, ben ils sont tout le temps jumelés avec des policiers, s'ils travaillent au poste de contrôle. Fait que tu sais, nous autres, ce qu'on veut, on veut rester autonome dans notre travail. Puis je le disais un petit peu tantôt quand on parlait de CRPQ, tu sais, juste être capable de faire notre job au complet. Parce que là, le problème qu'on a, c'est que en bout de ligne, quand on a quelqu'un, mettons, qui est recherché, ben faut que j'appelle la police. Puis si la police elle vient pas,
tu peux pas le détenir.
Je peux pas le détenir non plus que le temps qu'il faut parce que ça devient une détention illégale. Puis là, ben les contrôleurs routiers, tu sais, on dit t'es pas armé, t'as pas ci, t'as pas ça, mais je suis soumis à déontologie policière. Donc les mêmes codes que les policiers, je suis soumis à ça. Tu sais, fait que je peux pas tenir. Un conducteur.
Ça serait pas plus facile que vous auriez resté branche de la SQ, mettons, ou faisant partie intégrante de la SQ?
Ben là, à ce moment-là, on serait soit des policiers.
Avec une affectation spéciale au transport.
Ben écoutez, encore là, c'est une décision politique à ce moment-là. Tu sais,
À ce moment-là, les membres, avaient-tu été heureux de ce détachement-là? Ils voulaient rester?
Non, ils étaient pas... En fait... Quand ils étaient au ministère des Transports avant, dans une branche du ministère des Transports, là, ils ont été envoyés à la Sûreté du Québec à cause de l'armement, justement, à l'époque. Et les gens qui étaient là à la Sûreté du Québec, eux autres, ils voulaient avoir les budgets, mais ils voulaient pas avoir le personnel contrôleur routier qui avait été transféré dans le temps. Ils appelaient les bleus. Donc, les plus vieux, ils les appelaient les bleus. Fait que finalement, il s'est pas fait de contrôle routier pendant presque 3 ans, puis à l'époque, il y avait des permis pour tout, là. Tu sais, quelqu'un, tu voulais transporter des boîtes de carton entre Montréal et Québec, ça te prenait un permis de la CTQ, là, qui aujourd'hui n'existe plus, là, ces permis-là. Fait qu'il n'y a aucun contrôle. Fait que c'est les associations de transport qui se sont plaintes au gouvernement, disaient, hey, on veut du contrôle routier, tu sais, parce que là, c'était rendu la jungle un peu, là. Alors, c'est comme ça que finalement le gouvernement regardait ça à l'époque. Là on est fin 80. Puis il y a des choses qui changent pas. Le gouvernement était dans le trou. Ils sont encore dans le trou. Fait qu'ils ont regardé où ils pouvaient envoyer ça dans une boîte qui avait de l'argent. Puis c'est comme ça que ça a été transféré à la Société d'assurance automobile parce qu'eux autres avaient des fonds puis il y avait des bureaux partout au Québec. Fait que c'était une solution pour eux autres t'as simple. Sauf que ça a été l'atterrissage, c'est pas fait en douceur. Là. Moi, je suis arrivé, parce que moi, ça fait 32 ans que je fais ça, mais je suis arrivé à ce moment-là qu'on se ramassait dans une compagnie d'assurance.
Mm-hmm.
Là, suite à l'accident des éboulements, là, on a sorti le contrôle routier, si vous voulez, qui était plus imbriqué au sein de la Société d'assurance automobile, puis on a créé Contrôle routier Québec. Fait que on est encore là, mais c'est plus autonome. Mais c'est pas autonome à 100%, mais c'est plus autonome. Fait que là, il va-tu avoir une étape subséquente?
C'est quoi l'idée derrière tout ça de sortir Contrôle routier Québec de tous ces anciens partenariats-là?
C'est politique, tu sais, je voudrais bien dire vous répondre.
C'était-tu pour essayer de, mettons, mettre contrôle routier dans...
On parle d'accident des éboulements, après l'accident des éboulements, parce qu'il y a eu un rapport du coroner. Ouais. Le coroner recommandait de transférer les contrôleurs routiers à la SQ. C'était une de ses premières recommandations, le coroner Malouin à l'époque. Fait que, puis là, ben le ministre des Transports de l'époque, qui était Yves Chevrette, n'a pas voulu aller dans là.
Il voulait pas.
Fait que là, ils regardaient ça, puis là, ben, c'est là qu'ils ont dit, on va faire une société autonome. Fait que le contrôle routier a comme son bilan à part, qui est à l'intérieur du bilan de la société d'assurance automobile, mais dans le fond, moi, j'ai toujours dit, ce boîte-là, là, il pourrait prendre contrôle routier Québec, pourrait l'envoyer au ministère de la Culture, puis ça fonctionnerait, là.
T'sais. Parce que là, actuellement, vous avez qu'un poivre de Cayenne, c'est-tu juste ça que vous avez, ou même
le bâton télescopique.
Bâton télescopique. Demain matin, j'arrive à une balance, je suis un des pays criminels recherchés au Canada et puis j'ai 500 000 $ de poudre dans mon trailer.
Il est all dress, là.
Oui, il est all dress, il est bien plein. Puis que je décide d'être violent avec vous. C'est quoi votre mesure pour... Tu sais, vous avez pas de menottes, là.
Oh, vous avez on a des menottes, mais les menottes, c'est la fin d'une intervention, là.
Mais ça va être quoi votre pouvoir, parce que... J'essaie de me mettre dans votre peau, là. C'est quoi le pouvoir que vous allez être en mesure de faire? Je suis deux grosses armoires à glace dans le camion, là. Ça se peut que les deux agents fassent pas le poids actuellement. Ça va être quoi votre mesure d'interception?
Si t'es capable d'avoir un chargement plein de coke ou plein de drogue, là, puis t'arrives à quelque part, il y a des bonnes chances que tu sois armé aussi, là.
Il y a des bonnes chances. Mais là, vous êtes pas armé. Je comprends que vous allez téléphoner vos confrères de la SQ, mais le temps qu'ils s'en viennent.
Ah, puis ça, c'est s'ils viennent. Hein?
Ouais. Puis vous dites, je viens de pogner le jackpot dans poudre. Est-ce qu'ils sont plus rapides dans ce temps-là? Fait que c'est pour ça, c'est pour ça que je comprends mal le gouvernement de pas vouloir vous laisser le positif de votre demande d'être armé.
J'étais à la même place que vous, je comprends pas non plus. Puis d'autant plus que nous autres, on le fait dans un but de prévention. Tu sais, parce que, historiquement, les agents de la faune ont été armés après qu'il y a eu 2-3 morts.
Oui.
On a armé les agents de détention suite à la guerre des motards, puis qu'il y en a une agente puis un agent qui sont fait tirer.
Oui.
On va les armer parce que là, ils faisaient le transport de détenus puis ils étaient pas armés. Fait que tous les maillons faibles, mettons, dans la structure des agents de la paix au gouvernement du Québec, ont presque tous été armés suite à des conséquences où qu'il y a eu mort d'homme, tu sais. Fait que nous autres, on veut juste essayer d'éviter ça. On prend une voie qu'on pense qui est intelligente puis que le gouvernement va finir par comprendre. Mais non, ils se braquent.
Qui break ça?
Ben là, c'est le bureau du premier ministre.
OK, c'est rendu au premier ministre.
On est là.
Il pourrait claquer des doigts puis dire ça y est, on accepte puis on va de l'avant avec ça.
Oui, parce que c'est pas un changement de loi dans ce cas-ci là, c'est juste.
Il pourrait aller au-delà de la cour où vous avez été présenter vos audiences. Est-ce que le premier ministre pourrait dire arrêtons les procédures, on change ça
et il pourrait demain matin nous armer puis il pourrait nous donner plus que ce que le jugement pourrait nous donner aussi, tu sais, fait que quelque part. Puis on demande pas non plus là d'avoir 200 000 piastres de plus par année, parce que ça, c'était un débat. Moi, c'est un faux débat, là, mais les contrôleurs routiers, demain matin, je suis armé. Ils disent, ah, vous faites ça parce que vous voulez avoir plus d'argent. Puis les agents de la fonde font le même salaire que nous. Puis les constables qui travaillent dans les palais, ben ils font moins que nous. Puis sont armés, ces deux corps sont armés. Fait que c'est pas cet enjeu-là, c'est un faux débat. Là,
Et vous savez, Jean-Claude, les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Là. Ouais. Mais quand on a parlé de possible armement des contrôles routiers, j'aimerais qu'on défasse 2-3 mythes ensemble. Là. Ça y est, ils vont tirer partout. Ça, ouais.
Quand tu dis ça, j'imagine un narcotrafiquant au Mexique qui sort sur son balcon au jour de là.
Non, mais c'est vrai, c'est parce que il y a quand même des gens qu'il faut peut-être ramener un petit peu les deux pieds sur terre.
Je vais vous dire, juste cette question-là, c'est pas la première fois que je l'ai. Puis, premièrement, pour armer ici au Canada puis au Québec, ça te prend une formation. Okay, ça, c'est donné par l'École nationale de police. Puis, et quand tu sors de là, mais je le disais tantôt, là, une seule corps d'agent de la paix qui est pas armé, là, fait que les agents de la fonde, à ce que je cherche, ils tirent pas partout. Il y aurait peut-être plus de chance avec toutes les animaux qu'ils voyaient autour d'eux autres. Ouais. Les constables du palais, de mémoire, c'est arrivé une fois ou deux en 20 ans, 30 ans qu'ils ont eu à tirer. Puis même les policiers, je veux dire, c'est quand même rare qu'ils utilisent leur arme. Là, puis tu sais, l'autre chose...
Mais c'est un dernier recours.
Ben oui, c'est un dernier recours. Là, tu sors pas ça pour le fun, là.
Sors le gun puis envoie en arrière, on va t'inspecter.
Bizarrement, peut-être ça va étonner les auditeurs, tu sais, mais au tribunal, le procureur général du Québec, celui qui représente, mettons, le bureau du premier ministre, ben il est venu dire, ben si jamais la juge elle décide de dire que votre job est dangereuse, puis que on va demander au contrôleur routier de ne plus patrouiller les routes du Québec, on vous demande un délai de 12 mois, puis on va former les policiers pour qu'ils fassent du contrôle routier. Mais là, en bout de ligne, tu vas te ramasser avec des gars qui sont armés, qui vont arrêter des camionneurs. Puis déjà, nos camionneurs ici se font quand même intercepter par la sûreté ou les...
C'est combien de temps la formation d'un contrôleur routier?
21 semaines à l'école de police.
C'est ça. Autre mythe.
C'est juste peut-être. Puis un policier, c'est 15 semaines. Tu sais, fait qu'il faut faire la part des choses aussi, là.
Autre mythe, c'est pourquoi les camionneurs sont si dangereux? Celle-là va être facile à répondre, là, mais pourquoi les camionneurs sont si dangereux qu'il faut armer les contrôleurs routiers pour les infractions commises à un logbook ou les infractions commises, bah, ne serait-ce qu'au côté mécanique du véhicule, tout ça?
Mais dans le fond, on ne demande pas d'être armé parce que les camionneurs sont dangereux. La grande majorité sont corrects, là.
On disait quoi tantôt, 95?
Ben, on fait à peu près 100 000 interventions par année.
Oui.
Puis nous autres, on estime que c'est entre 1 et 3 % de nos interventions
de gestes
sont
violents.
Vraiment spéciales. Tu sais, que là, ça sort de l'ordinaire. Le gars veut s'en prendre à toi. Il est recherché. Il y a des dossiers criminels longs comme le bras, mettons, tu sais. Fait que c'est 1 à 3 %-là. Mais tu sais, vous allez dire, ouais, 1 % c'est pas grand chose, mais 1 % de 100 000, ça fait 1 000.
Oui.
1 000 divisé par tous les jours de l'année, là, ça en fait 3-4 par jour. Puis un, c'est le minimum, tu sais. Fait qu'on joue entre 1 et 3 %. Fait que tu sais, ces interventions-là sont récurrentes, reviennent régulièrement. Puis avec les mandats qu'on a, puis vous savez là, les contrôleurs routiers, on a un pouvoir que les policiers n'ont pas non plus, là, qu'on peut faire ouvrir tout espace de chargement sans mandat pour vérifier. Ne serait-ce que ce qui est transporté, là, puis je donne tout le temps l'exemple du tunnel La Fontaine. Comment vous voulez qu'on vérifie si un camion qui est pas lettré, puis il y a une boîte, puis que là, finalement, là, il transporte 25 bonbonnes de propane, mais il n'a pas le droit de passer dans le tunnel, mais évidemment, il va être assez intelligent pour pas mettre des placards de matière dangereuse sur le véhicule. Fait que la seule façon qu'on a de le vérifier, ben, c'est par ce pouvoir-là, tu sais. Fait que, mais par la bande, on se trouve à intercepter des véhicules volés. D'ailleurs, vendredi dernier, là, on a encore 2 véhicules volés dans un conteneur qui s'en allait au port de Montréal. T'sais. Fait que c'est récurrent. Là, t'sais. On sort pas des communiqués à toutes les semaines, mais à toutes les semaines, il y a quelque chose qui se passe. Hein.
Vous dites peut-être 1 à 3 % d'interceptions qui sont assez inquiétantes des fois.
Ouais.
Dans votre carrière, 34 années.
32. Il ne faut pas trop me vieillir. Là, mais...
Non, c'est correct. est-ce qu'il y a déjà eu des situations où vous vous êtes dit, ouais, celle-là, j'ai peut-être passé à côté, j'ai été popé, j'ai manœuvré popé, mais est-ce qu'il y a eu des situations où vous vous êtes dit, j'aurais eu besoin, peut-être, ne serait-ce que pour persuader l'autre que j'ai de quoi me défendre, Mais est-ce qu'il y a des situations où ce que vous auriez eu besoin d'un arbre?
Alors, personnellement, j'en ai vécu.
Puis que des fois, faut se retirer, dire bon, ben, va-t'en, ben, je vais pas risquer ma vie pour
c'est
ça.
Ça, c'est le. En fait, on va faire deux propos sans question. Là, fait que,
oui.
Le premier, oui, j'ai eu plusieurs interventions où ce que j'ai eu à faire avec de la drogue. Puis à cette époque-là, on était moins formé aussi. Fait que on ne fait pas tout le temps dire ah oui, ça c'est tel produit. Fait que on faisait venir les policiers, puis les policiers, ben des fois ils arrivent vite, des fois ils arrivent pas vite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lent parce qu'il manque des policiers même dans leur propre dans les propres corps de police. Fait que quand tu appelles, tu as besoin d'assistance, ben là, ça prend de plus en plus de temps. Mais puis à un moment donné, j'ai intercepté un véhicule qui était volé, mais qu'on savait pas qu'il avait été volé parce que il venait d'être volé, t'as même pas rapporté volé, tu sais, fait que parce que je vous donne le scoop, mais dans le fond j'y suis après, mais un peu comme on voit dans les films, là, le véhicule une fois que je l'ai intercepté, qui s'est arrêté, ben il a mis le véhicule, c'est un gros camion cube, là, il a mis le véhicule à renverse, puis il a foncé dans l'autopatrouille, là, fait que là le hood du char a tout plié. Le devant, tout était défoncé, mais le coussin gonflable n'a pas parti. Puis lui, après ça, il s'est poussé. Puis là, mon char était encore capable de rouler. Fait que je l'ai suivi jusqu'à un certain moment donné. Puis lui, il est sorti du véhicule, puis il est parti à courir, puis s'est poussé au travers du champ, puis tout ça. Je suis pas parti après, tu sais. Mais je pourrais vous en relater plusieurs comme ça, là, tu sais. Puis moi, j'ai été blessé suite à ça, parce qu'il avait rentré assez raide, là, fait que... les disques dans le cou puis tout ça, là, tu sais, fait que puis chez nous on a quand même des chocs post-traumatiques aussi, là, tu sais, des événements, oui, là, des gens qui sont fait courrier avec des personnes là, qui sortaient une hache, parce que tu sais, l'autre affaire c'est que puis ça, monsieur Bernicky, notre expert, tu sais, lui il capotait, là, parce que dans le fond tous les camionneurs ils ont une possibilité d'avoir accès. Il appelle ça, dans le jargon policier, à une arme d'opportunité. T'sais. Un grand tournevis, une barre pour striper les straps, des marteaux. Fait que quand un policier intercepte une voiture, c'est pas ça, là. Il y a personne qui se promène avec tout
ben,
ça.
Le camion lui-même, ça peut quasiment... T'sais.
Oui, en plus que le camion... Mais ça, le camion peut être un véhicule, peut être une arme. T'sais. Mais les armes de proximité qui sont disponibles, lui, il en revenait pas. Il disait, jamais, j'aurais pensé ça. T'sais. Puis pour le camionneur, lui, il a besoin de ça pour faire son travail. T'sais, combien de fois qu'on arrête, ben, qu'on intercepte les camionneurs qui ont les... moi, j'ai tout le temps le mot un cutter, là, mais un exacto. T'sais. C'est super dangereux, un exacto. Là, mais ils ont ça à la ceinture parce que c'est, pour eux autres, c'est un outil de travail. Mais pour dans le domaine policier, ça devient une arme d'opportunité. Fait que puis là, déjà, t'es censé être sur les aguets, si on veut, là. T'es censé faire plus attention. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais. Fait que.
J'imagine que c'est souvent des mêmes histoires comme ça qui peuvent revenir d'autres contrôleurs routiers qui font aussi des interceptions un peu bizarroïdes, là.
Ben, il y en a tout le temps, tu sais. Ouais. Je sais, sur votre site Internet, des fois, vous voyez des photos, là, que nous autres, on a, puis qu'on met sur notre site Internet, puis on vous les donne gracieusement. Mais, tu sais, il y a toutes sortes d'interventions. Tu sais, ceux-là vont bien souvent, là, tu sais, mais oui, c'est récurrent. Puis tantôt, on parlait un peu l'aspect méconnu du travail des contrôleurs routiers, tu sais. C'est parce que, tu sais, le camionneur, lui, il chauffe son truck, les vies est belle, il fait sa job, tu sais. Moi, contrôleur, ben, je fais les trucks, je fais les autobus scolaires, je fais les autobus neutralisés, je fais tous les taxis, puis je fais aussi tous les véhicules qui sont plaqués F. Donc, le livreur de pizza, mettons, là, il y a une plaque F, je fais ça. Fait que là, c'est sûr que dans plusieurs créneaux, ces personnes-là sont pas tous au courant de l'étendue des pouvoirs des contrôleurs routiers. T'sais. Puis moi, ça m'est arrivé régulièrement quand je donnais un constat d'une ceinture de sécurité. Tu as le droit de me donner ça, puis t'es un camionneur, parce que les autres pensent que on est là pour le logbook, la surcharge, l'arrimage.
Ouais, ça, c'est très méconnu.
L'aspect mécanique, là, t'sais, mais moi, je fais le code au complet, là, puis le code, il y a 600 articles, puis je le fais au complet, plus 10 autres lois. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ils sont pas tous au courant de ça.
Je lance ça comme ça, mais j'ai vu... J'ai vu beaucoup de personnes dans les gangs de rue se promener avec des véhicules qui étaient justement plaqués commerciaux parce que c'est des voitures de location ou des trucs c'est comme ça. Ouais. Fait que je sais que cet aspect-là, ça peut être assez intense. Ça doit arriver aussi qu'il y ait des agents qui font face à quelqu'un qui a beaucoup d'agressivité ou de violence, puis que tu te dises, ben peut-être que je suis mieux de pas intervenir dans un cas comme ça parce que je sais pas où ça va aller. J'imagine que ça doit se produire, ça aussi.
Ben oui, mais voyez-vous, à l'école de police, ils vont nous enseigner, ils appellent ça un repli stratégique. T'sais. Fait que là, tu vas constater que t'es pas capable d'intervenir parce que ne serait-ce que, mettons, l'agent de la paix, là, parce que ça marche pas juste pour les contrôleurs, là, tu sais, mais les policiers, tout ça, là, tu pèses 110 livres, puis t'as quelqu'un qui en pèse 300 avant toi, là, tu sais, fait, puis il a la main gros comme un ballon de football, tu sais, fait que tu sais que tu seras pas capable. Tu sais, fait que là, le repli stratégique vise à dire, ben je vais retourner dans mon char, m'appeler du backup, puis là, on va essayer de faire l'intervention à deux, puis à trois. Puis ultimement, ben là, si c'est trop encore dangereux, ben je vais me retirer avec mon véhicule de patrouille. Puis là, tu sais, je vous dis ça, ça coule bien, mais dans la vraie vie, c'est difficile de se retirer parce que t'es à côté de la personne. Puis tu sais, souvent au tribunal, parce que moi j'ai témoigné 5 jours au tribunal, tu sais, mais c'est que quand t'interceptes un camion, mettons un semi-remorque, tu dis là, je vais me retirer. J'étais à côté du tracteur routier, là. Puis là, j'ai un trailer de 53 pieds, là. Fait que là, je me retire comment, là? Je fais dos, puis je m'en viens en courant à mon autopatrouille. Puis le gars, il a une arme à feu, tu sais. Fait que, il y a des fois, c'est possible de le faire. Mais dans bien des cas qu'on a vécu, mes membres, t'es pas capable de le faire, tu sais. Fait que, tu sais, tantôt, là, tu disais de nuit, puis tout ça. Mais tu sais, j'ai 2 contrôleurs routiers dans un char de nuit. Il intercepte une genre de moissonneuse-batteuse. Une moissonneuse-batteuse. Quelque chose de
pas grand danger là-dessus.
Il est pas censé avoir grand danger là, tu sais. Puis je vous dis, une moissonneuse, c'est style comme là, tu sais, un gros véhicule agricole. Là.
Oui.
Mais ben là, le véhicule agricole, là, il était volé.
Ok.
Pas marqué là, véhicule volé, ne m'interceptait pas là, tu sais, c'est pas marqué dessus là. Mais le gars, il a essayé d'arponner le véhicule de patrouille en virant avec le véhicule agricole, puis s'est essayé à 3-4 reprises là, tu sais. Puis là, on va dire au contrôleur, ben retiens-toi. T'es pas capable de se retirer à l'endroit qu'il était, tu sais. Fait que c'est ce genre d'événement-là, on en vit. Puis là, nous autres, c'est sûr, qu'est-ce qu'on a entendu au tribunal de dire, ben, les contrôleurs routiers, ils peuvent tout le temps se retirer, puis ils devraient pas aller jusqu'au bout de leurs interventions. Mais c'est parce que c'est ça, c'est pas tout le temps possible.
Ouais, c'est une méconnaissance de la réalité sur le terrain, au fond.
Ben oui. Tu fais des procédures, mais à un moment donné, il y a des choses que ça peut être clair, là, tu sais, on va dire, par procédure, mettons, là, vous ne faites pas de poursuite. Bien, les corps de police ont ça, puis nous autres, on a ça aussi.
Les contrôleurs, vous ne faites pas de poursuite. Ben, ou très peu.
Ça arrive, parce que, tu sais,
ouais.
Le véhicule qui est volé, là.
Oui.
Peut-être que le gars ne veut pas se faire intercepter, fait que là, il va. Mettons, si on ne parle pas de semi-remorque, parce qu'il ne pourra pas rouler à 160, mais mettons, une plaque F, là, tu sais. Ouais. Que ça peut arriver, tu sais. Mais, c'est certain qu'à un moment donné, quand tu te rends compte que là, ça tu détonnes dans le décor, je vais dire ça comme ça, ben là, on n'est pas tout seul. Là. Plusieurs corps de police, on va leur dire, vous ne procédez pas à la poursuite. T'sais. Mais ça, la ligne est plus facile à tracer. T'sais. Mais quand
c'est facile d'en jaser ici, mais dans la vie de tous les jours. Là.
C'est ça, exactement.
OK. Merci d'être passé en studio. C'est toujours un plaisir de vous jaser. Avais-tu quelque chose que vous voulez rajouter?
Non, c'est correct.
C'est correct, OK.
C'est bon. Parfait.
On aurait tellement jasé, il faudrait faire des choses.
On aurait des milliers de questions, mais...
On
aurait
faire des 2-3 heures ensemble, puis on peut se reprendre peut-être une fois par mois, si ça vous le dit.
Oui, il n'y a pas de trouble, moi. Non. La disponibilité, on va la dégager.
Vous êtes toujours les bienvenus ici, puis c'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci d'être passé en studio, puis on se dit-tu dans un mois à peu près?
Vous aimez l'émission? Ben faites-nous un commentaire à studio, en commercial, truckstopquebec.com.
Truck Stop Québec.
Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver.
Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je sens plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser.
Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver.
Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier qu'il sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030, poste 285. Et sur le web, gilmire.com.
Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, escompte pour l'achat de pièces, rabais pour clinique médicale privée, firme d'avocats spécialisés, affacturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez la RPQ à arpq.org.
The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721.
1-888-694-8721.
À Facturage JD.
Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team vers l'Ouest canadien ou américain disponible. Vous devez posséder un passeport valide. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
Du 6 au 8 février 2025,
au Palais des Congrès,
Expo Cam vous propulsera au cœur de l'industrie. Découvrez les dernières innovations. Camions, remorques et accessoires les plus récents.
Explorez les nouvelles solutions éco-responsables de la zone verte.
Démonstration d'équipements et technologies dans le garage Expo Cam. Animé par Benoît Thérien de Truck Stop Québec. Oh! Renseignez-vous sur les tendances actuelles. Tissez des liens professionnels. Trouvez votre prochain emploi. Expo Cam, l'événement majeur du camionnage.
Informations disponibles sur expocam.ca.
TSQ.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Truck Stop Québec.
Paye Sud-Gaz et propulse ta carrière grâce à notre foire de l'emploi du camionnage. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du transport à la recherche d'un emploi de qualité. 19 octobre prochain, au Centre des congrès de l'Hôtel Mortagne, 1228 rue Nobel à Boucherville. Vous désirez exposer? Contactez Jean-Raymond Promoteur au 514-923-8531 pour exposer.
Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089, 24 sur 24.